Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour mesdames, bonjour, merci, bonjour mesdames, bonjour messieurs, merci de suivre Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange et de partage. Certains syndicats de l'enseignement primaire, secondaire et technique souhaitent que la rentrée scolaire 2022-2023 soit renvoyée au 26 septembre, le temps que le Parlement puisse examiner le projet du budget 2023 et prendre en compte leurs revendications. Rappelons qu'il y a quelques jours, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait appelé le gouvernement à élaborer un budget qui réponde aux besoins sociaux de la population. Selon vous, quels sont les préalables pour l'élaboration d'un budget qui réponde à ces exigences des besoins de la population? 081 890 49 69, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Ce magazine est mis en onde par Paul Badianyama. Quant à moi, Pierrot et la Meji, c'est un réel plaisir de vous retrouver, fidèles auditeurs. Bienvenue à toutes et à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meji.
Comme vous le savez, le gouvernement est dans le processus d'élaboration du budget 2023 et le Parlement, qui se réunira d'ici le 15 septembre prochain, sera en session parlementaire consacrée, bien sûr, comme on l'appelle, une session budgétaire. Et les syndicalistes estiment qu'il serait mieux que le Parlement se penche sur ces budgets et que ces budgets répondent aux véritables problèmes de la société, de la population. Comment arriver alors à avoir un budget qui réponde aux besoins de la population, c'est la question au centre de nos échanges. Merci d'avoir merci d'être nombreux à vous être inscrits pour intervenir dans cette émission. Et nous avons associé à cet échange Monsieur Paulin Odiané, député national élu du Suro dans la province de Haute-Uele. Monsieur Paulin Odiané, bonjour.
Bonjour mon frère et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Et vous êtes autorité budgétaire. Comment d'abord trouvez-vous ces plaidoyers, que ce soit celui du chef de l'État ou des syndicalistes qui estiment que le gouvernement devra élaborer un budget qui réponde aux véritables problèmes? Mais c'est vous qui êtes l'autorité budgétaire. Comment réagissez-vous par rapport à ces plaidoyers?
Bon, merci beaucoup pour la question. Je crois que notre pays, la RDC, a nécessairement besoin des ressources pour pallier aux différents problèmes ou aux différentes préoccupations de notre peuple. Et pour arriver à un budget social tel que souhaité par toute la couche, il faut nécessairement qu'il y ait des préalables. Les préalables, c'est-à-dire ici, il faut que la gestion de la chose publique soit une gestion orthodoxe. Vous savez très bien que nous avons beaucoup de ressources dans notre pays, mais ces ressources sont dilapidées de gauche à droite sans que ceux qui dilapident de cet argent soient sanctionnés. Et puis la mobilisation même des recettes, ça pose problème. Il y a beaucoup de sources et de recettes, mais la plupart de ces recettes entrent dans les trous noirs et il nous est difficile d'avoir un budget consistant, alors que avec la gestion orthodoxe, on peut arriver à un budget consistant pour nous permettre de faire face aux différents problèmes sanitaires dans notre pays, le problème de l'éducation, le problème de la formation des jeunes, le problème des retraites et les différents problèmes de salaire des agents de l'État. Donc tout ça, ça nécessite une bonne gestion. Donc si la gestion n'est pas bonne, on ne peut pas parler d'un budget social, sinon c'est tout simplement parler pour le plaisir de parler.
Alors, vous dites, là, le premier préalable, c'est la mobilisation d'abord des ressources et que ces ressources soient affectées comme il faut. Mais quand on regarde aujourd'hui, depuis une décennie, hein, plus de deux décennies, on peut dire ainsi, on se plaint toujours que le budget qui est chaque fois voté est exécuté en déséquilibre en termes de plus d'argent qui vont, l'argent qui va dans les frais de fonctionnement des institutions. Alors, comment on peut arriver à combler ce fossé, à quitter ce déséquilibre de plus d'argent consommé par les frais de fonctionnement, qui est par exemple l'argent affecté pour des projets et les salaires?
Non, je crois pour ma part que le problème de notre pays ne réside pas dans les frais de fonctionnement des institutions. Le problème est tout simplement dans la mauvaise gouvernance. Si on parvient à gérer correctement la chose publique, mais tout ce qu'on donne au fonctionnement là, ne peuvent pas handicaper les sociaux de la population. Mais au moment où nous parlons avec un budget maigre que nous avons, on ne peut pas avoir un gouvernement éléphantesque tel que nous avons présentement. Il faut penser à diminuer sensiblement la taille du gouvernement. Avec 60 des ministres, ça ne tient pas. C'est mieux même d'avoir 20 de ministres pour notre pays et puis réduire sensiblement la taille de tous les services, différents services qui sont attachés à la présidence. Il y a des services budgétivores qui n'ont pas d'impact sur terrain, sur la vie de la population, et puis il faut supprimer tous ces services-là et en même temps il faut supprimer certaines institutions qui n'ont pas d'importance. Je fais allusion ici, il y a une institution comme l'institution qui s'occupe de, j'ai oublié encore le nom, l'institution de Olengako, il a, j'ai oublié le nom.
L'institution qui était chargée pour le suivi de l'accord, n'est-ce pas?
Oui,
l'accord de la CELCO, oui.
Ça n'a pas d'importance, ça continue à ronger le budget de l'État pour rien. On peut même ce qu'on appelle conseil économique, et moi je ne sais pas si ça produit quel rapport et puis quel est l'impact de ce rapport sur le quotidien de la population. Selon moi, tous ces services-là doivent être donc supprimés, il faut les supprimer et puis déverser tous ces budgets au social de la population.
Alors, quand vous appelez, vous parlez de la réduction du train de vie des institutions en termes de réduction, par exemple, de la taille du gouvernement. On sait aujourd'hui comment le gouvernement est formé. Quand on tient compte de la majorité au niveau du Parlement, quand on tient compte de l'ensemble des regroupements politiques qui vont à l'Assemblée nationale, alors est-ce que le problème va être résolu quand on sait qu'on a beaucoup de partis politiques, beaucoup de regroupements et que le gouvernement aussi est formé en termes de représentativité de ses forces politiques, mais aussi en termes de représentativité régionale? Est-ce qu'on peut arriver vraiment à réduire la taille du gouvernement si on doit partir de tous ces paramètres-là?
D'abord, notre pays a combien de provinces? Nous avons 25 provinces, plus la ville de Kinshasa. Bon, la ville de Kinshasa, ce n'est pas une province. Nous avons 25 provinces. On a qu'à nommer un ministre par province si on veut tenir compte de l'équilibre régional. Donc, un ministre par province, donc nous avons 25 ministres. Et puis, le ministre peut travailler très bien avec les secrétaires généraux. Donc ça va résoudre le problème. Et le problème des familles politiques, bon, si vous voyez ces gouvernements, l'IDP a plus de 15 ministres. Donc est-ce que c'est normal qu'un seul parti puisse avoir autant de ministres? Ça ne vaut pas la peine. Donc peut-être nous voulons servir les partis politiques ou les familles politiques ou nous voulons servir la population. Après les deux, il nous appartient de choisir si nous voulons servir la population. Donc chaque composante n'a qu'à donner un ministre et puis on résout le problème et puis on demande à ceux qui donnent le nom des ministres de tenir compte de nos provinces respectives, c'est-à-dire ici si l'IDP a déjà donné quelqu'un le nom de quelqu'un du Kassai, l'autre parti ne va plus donner le nom d'un ressortissant du Kassai, il donne le nom d'une autre province pour que toutes les provinces soient représentées au gouvernement. Ça résout facilement aussi les problèmes.
Voilà, merci beaucoup. Alors, on revient à vous. On écoute les auditeurs, ils sont très nombreux hein, sur le standard de l'émission Parole aux auditeurs. Je rappelle encore aux auditeurs qu'ils peuvent aussi commenter les sujets en même temps sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Marie-Paul, vous nous appelez des Kisangani. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à votre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Alors, pour vous, quels sont les préalables pour l'élaboration de ces budgets?
Oui, merci pour la question, monsieur le journaliste. Et d'entrée à jeu, il faut d'abord rappeler que le budget national est une prévision des recettes et des dépenses estimées au cours d'une année dans l'ensemble des territoires nationaux. Et c'est dans tous les domaines d'intervention de l'État. Et lorsque on exécute un budget, au cours de l'exercice d'un budget, les dépenses additionnelles sont également admissibles. Alors, de ce fait, moi je trouve qu'il est illogique que la rentrée scolaire soit conditionnée au prolongement des navettes parlementaires dans l'adoption des budgets. Nous le savons qu'il y a des navettes qui se font pour qu'un budget soit adopté et au finish être publié par le président de la République au cas où il y a consensus entre les deux chambres du Parlement. Alors, il faudrait également préciser que l'élaboration des budgets tient également compte non seulement de l'économie nationale du pays, mais aussi de toutes les charges que l'État est en train de supplier. Et dans ces charges-là, on trouve également les salaires des travailleurs, les salaires des fonctionnaires, les salaires des enseignants, ainsi de suite, et toutes ces charges-là sont également prises en compte dans l'élaboration des budgets. Alors, la demande justement des syndicats des écoles qui demandent est-ce que la rentrée scolaire soit différée, je trouve que cette demande-là n'est pas fondée pour des raisons que je viens de soulever. Alors, à mon sens, le préalable pour élaborer un budget qui répond justement aux besoins sociaux de la population, il faudrait entre autres que les autorités budgétaires de la RDC appliquent la justice distributive. L'application de justice distributive, c'est l'un des préalables qu'il faut observer dans l'élaboration des budgets, parce que dans les comptes, on doit également tenir compte de cela. Où est affecté tel montant, on doit tenir compte de ça. En deuxième lieu, on doit instituer les règles de la gouvernance financière sur l'ensemble des régies que nous avons dans notre pays. J'ai été vraiment émerveillé lorsque l'invité a dit qu'il y a quand même un désordre. Nous avons les régies qui sont censées alimenter les budgets sont tellement mal gérées. Le fait qu'il y a l'absence de la gouvernance, on doit instituer quand même cette gouvernance-là dans toutes ces régies-là. Et en troisième lieu, on doit réduire les traits de vue des institutions, notamment le Parlement et la Présidence. Nous disons que nous avons un budget maudit. Et ce budget-là, le fait qu'il est maudit, c'est que nous devons également tenir compte des chiffres de ce budget-là. Et par conséquent, il ne faudrait pas qu'il y ait des institutions qui tuent la part des lions et que les autres institutions, les autres domaines d'intervention de l'État n'ont rien. Là, ce n'est pas une bonne chose. On doit réduire. Nous savons que la présidence et le Parlement nous coûtent énormément cher dans ces pays. En quatrième lieu, on doit assainir les fichiers de la fonction publique. Je crois que nous avons un problème dans notre pays, c'est l'absence de l'esprit des lois. On a initié beaucoup de projets de réviser les fichiers. Nous avons quand même beaucoup de fictifs. Le mouvement a commencé et ce mouvement avait quand même produit des effets côté pendant le règne du premier ministre Matata. On a trouvé qu'il y avait beaucoup de l'argent qui était volatilisé par des gens qui n'existent pas, cet argent que les individus en bénéficiaient. Alors, si on doit continuer dans ce sens-là pour assainir ces fichiers-là, je crois qu'on aura vraiment à résoudre beaucoup de problèmes parce que nous sommes dans un pays qui n'a pas assez de gens qui travaillent. En cinquième lieu, on doit bannir dans l'exercice budgétaire le système de paiement multiple. Encore une fois, une réalité qui est dans notre pays, on paie les gens doublement. Il y a des gens qui reçoivent de l'État 2 salaires, 3 salaires, 4 salaires, ça n'existe nulle part, si ce n'est qu'au Congo où quelqu'un peut bénéficier de plusieurs salaires en même moment. Parce que l'employé, c'est l'État. Comment un employé peut payer doublement, triplement, quadruplement quelqu'un? Et nous le voyons ici, il y a même des députés qui sont députés, au-delà du fait qu'ils touchent ce qu'ils touchent là, ils ont encore les mêmes salaires dans les différents
poste qu'ils ont y a occupé bien avant. Je crois que aussitôt qu'on est nommé ministre, député, on doit cesser de recevoir l'argent si on veut bien recevoir les salaires ou les roulements de là où on travaille, ou on reste si on a été fonctionnaire dans les paiements que l'État vous donnait avant que vous ne deveniez. Alors, en sixième lieu, je crois qu'on doit affecter aussi les fonds nécessaires dans le secteur de l'économie nationale. Aujourd'hui, nous avons la modicité des budgets, c'est parce que l'économie nationale ne tourne pas. Il n'y a pas un bon voie dans l'économie nationale. On doit affecter beaucoup d'argent là-bas. Mm-hmm. Et en septième lieu, on doit appliquer le système de SMIC. Nous n'avons quand même marre dans tout ce que nous avons comme des ultimatums, des grèves, des ras-le-bol par-ci par-là. C'est parce que nous avons là un problème d'application des SMIC dans les salaires des agents de l'État. Si on applique les SMIC, je crois qu'on va résoudre quand même tous les petits problèmes qu'on rencontre par-ci par-là qui nous tirent vraiment vers la pesanteur des sous-développements. Et de mon point de vue, sur tous ces éléments que je vais d'énumérer, sans prise en charge et dans l'élaboration des budgets, je crois que nous allons résoudre des petits problèmes que nous avons. On ne va pas commencer à conditionner la rentrée par d'autres exercices qui sont peut-être aussi très éloignés un peu de la rentrée scolaire, parce que nous le savons bien, l'éducation nationale marche.
Voilà, merci beaucoup, Marie-Paul, vous estimez que le fait que les enseignants aient demandé qu'on puisse conditionner la rentrée scolaire à l'examen des budgets, vous estimez qu'on ne peut pas le faire parce que l'examen des budgets va prendre beaucoup de temps, il y a beaucoup d'exercices pour arriver à ça. Mais d'une manière globale, vous avez réagi au préalable qu'il faudra aujourd'hui par rapport au budget. Vous avez évoqué beaucoup d'éléments, les trains de vie des institutions, vous avez parlé de l'assainissement du fichier des payes, des salaires multiples, les SMIC. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire à ce que les budgets répondent vraiment au vrai problème qui se pose aujourd'hui dans notre société. Merci beaucoup Marie-Paul. Xavier, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati, et surtout bonjour aussi à l'élu du peuple, monsieur le député.
On vous écoute, Xavier.
Oui, merci. Ici, il faudrait rappeler une chose, parce que aujourd'hui nous constatons que le social est devenu un mythe que le politicien raconte pour les besoins de leur cause. Parce que, comme vous voyez ici, il faut d'abord pour bien comprendre le social. Nous devons partir de la justice sociale qui n'est pas jusque-là, qui n'a pas ses bases jusque-là en RDC. Nous devons nous poser la question, le chef de l'État avait une bonne vision sur le social depuis qu'il a initié ce qu'on appelle lutte contre la pauvreté, où en sommes-nous aujourd'hui? Je referme la parenthèse. Maintenant, ici, lorsqu'il faut parler de budget qui va vraiment tenir compte du social, premièrement, je pense qu'il faut drastiquement renforcer le mécanisme de contrôle financier d'abord, surtout l'étendue du pays. Il faut quand même vraiment renforcer fortement le mécanisme de contrôle financier. Mais quand nous voyons ici, il y a un problème. Ceux qui veulent résoudre le problème mènent une politique qui constitue un problème social. Je donnerai un exemple. Sur quel est-ce que aujourd'hui on peut me dire le budget passé, est-ce qu'il y a-t-il une précision selon laquelle qu'il fallait payer par exemple le jet des députés autant et des sénateurs autant? Je ne pense pas. Mais pourquoi on est en train d'utiliser le budget comme ça? Parce qu'il y a des urgences qu'on peut comprendre, mais payer le jet, ce n'est pas une urgence. Et quand nous voyons la réclamation des syndicats aujourd'hui qui prétendent repousser la rentrée pour la raison qu'il faudrait attendre débattre d'abord du budget. Mais non, nous sommes tous Congolais, on ne doit pas se tromper là-bas. Ils savent très bien, d'ailleurs, ils sont conscients que d'abord pour mener, débattre de voie de budget, ce n'est pas une messe à paix qui peut se déclarer comme ça avant qu'on arrive le 25, ça sera déjà débattu. Non, ils en savent très bien qu'il y a des démarches à mener là-bas. Ici, ils ne doivent pas conditionner la rentrée donc au budget, parce que nous savons que, en tout cas, ça ne sera pas une manière de résoudre le problème. Moi, je pense que ils doivent continuer à mener, c'est de leur droit, ils doivent continuer à mener leurs réclamations à travers de grèves et autres moyens de pression, mais aller jusqu'à réfuter, je pense que ce n'est pas bien parce qu'ils risquent de pénaliser pour rien les écoles privées parce que nous savons très bien qu'en RDC, nous avons beaucoup plus d'écoles privées que d'écoles publiques. Mais lorsque nous restons dans la logique du budget, quand bien même on va parler de budget alloué à l'enseignement, nous savons bien que la théorie budgétaire a été toujours bonne, mais ce qui pose problème, c'est la réalisation. Parce que comment on arrive à collecter le budget, par exemple, je prendrai, si je me trompe sur les chiffres, on a parlé de 10 milliards l'année dernière. Et si nous voyons dans la reddition des comptes qui va se passer bientôt là, est-ce que réellement ils ont collecté 10 milliards? Vous allez voir qu'ils ont collecté, ça ne va même pas arriver à 10 milliards. Raison pour laquelle on peut tabler théoriquement sur le budget alloué à l'enseignement, et peut-être que ça peut enchanter les enseignants pour le plaisir. Mais en réalité, ça ne sera pas comme ça. Nous en savons très bien. Ici, ça pose aussi le problème de la capacité de collecter le budget. Le budget qu'on a, c'est une prévision, nous en savons bien, c'est une prévision le budget. Mais la capacité de collecter cet argent-là et répartir selon les divisions là on les a allouées, ça pose problème pour réaliser le projet, parce que vous allez voir que la santé autre là on donne le budget, c'est le secteur social bien sûr, mais la réalisation, ça pose toujours problème. C'est là où nous avons un grand problème, parce que comme nous savons que là-bas nous sommes dans un domaine économique qui est agrégé à une science exacte. Lorsqu'on est en train de faire les chiffres là-bas, il faudrait normalement qu'on fasse le tout possible, qu'on collecte de l'argent qui peut être en mesure d'avoisiner les chiffres évoqués pour décanter le problème. Parce que même les problèmes sont conçus sur base de budget alloué. Mais quand on n'arrive pas aux chiffres approximatifs, on collecte seulement un chiffre comme ça, très loin de la réalité, très loin de la prévision. Mais comment voulez-vous qu'on puisse résoudre le problème?
Difficile. Ça veut dire que vous estimez, Xavier, comme le disait tout à l'heure notre ami Marie-Paul, qu'il y a tellement de problèmes, que ce soit en termes de ressources qu'il faudra mobiliser, mais aussi l'affectation de ces ressources, c'est l'ensemble de ces problèmes qu'il faudra aujourd'hui s'épancher pour qu'on puisse vivre vraiment un budget de l'État qui est élaboré, qui est voté, qui est appliqué et qui réponde aux véritables problèmes de Congolais. Alors Alfred, vous êtes à Calémie. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute Alfred.
Merci beaucoup monsieur le journaliste de ces choix. Moi je me pense d'abord bien qu'il faille que nous comprenions la situation actuelle sur les plans éducationnels. Avant que je ne soulève les préalables demandés dans ce sujet, je me veux d'abord rappeler que la fois dernière, le ministre de l'EPST avait inscrit dans les budgets de 2023 ses priorités, et ce, pour la bonne faisabilité de l'année scolaire de 2023, et avait par la suite confirmé la rentrée pour le 5 septembre. Et c'était pour dire que, dès lors que les priorités du ministre ne sont pas encore examinées, il se passera des failles, comme quoi ça n'interdira à rien de commencer l'année scolaire le 5 tant que les priorités ne sont pas encore examinées. Il y aura toujours des conséquences, il y aura toujours des problèmes. Je me crois bien, s'il faudrait que nous relevions des préalables pour sauver l'année scolaire de 2023, il faut qu'il y ait les paiements réguliers des enseignants. Si les enseignants sont mieux payés, vous allez comprendre avec nous et vous allez constater qu'il n'y aura pas beaucoup de désordre. Et lorsque ces paiements-là n'est plus réguliers, il y aura toujours des grèves. Et lorsque il y a des grèves, ces grèves-là se répercutent toujours au changement, se répercute toujours au calendrier. Le calendrier sera réaménagé par suite des grèves, le calendrier sera compliqué par suite des grèves. Ça, c'est d'abord un. Des deux, le respect des lois, des conventions, des protocoles et accords de notre gouvernement pour éviter toutes sortes de désordres au sein de cette institution. Je me pense bien que notre gouvernement a toujours eu l'initiative de prendre des accords, de prendre des protocoles avec des comités, des enseignants, avec un comité syndical, mais des fois, ces accords-là n'ont jamais été respectés. Et ce qui se débouche toujours au désordre et qui se répercute toujours la conséquence au calendrier scolaire. Et ensuite, pour terminer, de trois, la gratuité de l'enseignement. Je me pense, la gratuité, c'est un grand défi à relever dans notre pays. surtout dans des provinces où nous sommes présentement. Moi, je cite la province du Tanganyika. Il y a eu des sérieux problèmes. Sérieux problèmes comme quoi certains enfants ont abandonné, des problèmes où les parents se disaient que c'est la gratuité, l'enseignement des bases, mais on commence encore à en demander. J'ai constaté à des différents événements, à des différentes manifestations ici. Donc ça pose toujours problème que le gouvernement doit prendre en considération pour mieux sauver les calendriers scolaires.
Voilà. Merci. Oui, là. Oui, Alfred, oui, en conclusion, rapidement.
En conclusion, je me voulais dire que c'est trop efficace. Les priorités énoncées par les ministres soient examinées dans les parlements avant que la rentrée n'ait lieu.
Merci beaucoup. Vous êtes revenu sur les plaidoyers des enseignants, mais en estimant qu'on peut commencer la rentrée scolaire, parce que le travail d'élaboration du budget, ça prend beaucoup de temps, hein. On ne peut pas conditionner cela. Mais vous souhaitez quand même qu'au niveau du budget, que la question de l'enseignement soit vraiment considérée comme une priorité. Kalo, vous êtes en bougement et vous gardez la ligne. Nous allons d'abord revenir à notre invité, le député national Paulin Wodjane, pour commenter les points de vue de différents compatriotes. Je rappelle encore le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine, qui c'est les 081-890-4969.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, Monsieur Paulin Wodjane, député national. Vous avez suivi les compatriotes qui se sont exprimés tout à l'heure autour de toutes ces questions. Quelle est votre réaction par rapport à leur point de vue? Oui, Monsieur Paulin Wodjane, vous êtes avec nous? Je crois qu'on a des petits soucis des lignes avec notre invité. Alors, nous allons d'abord prendre Kalo Kalonji qui est en Mbujimayi et nous allons recontacter l'invité d'un moment à l'autre. Kalo, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Pierrot et bonjour aux auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute, Kalo.
Vous savez que dans tout ce qu'on vient d'entendre là, tout le monde est plus malin que Kindolo. C'est-à-dire quoi? Vous savez, j'ai toujours dit que les revendications de nos enseignants, des médecins qui interviennent au cours d'une législation, non, au cours d'un exercice budgétaire, c'est un faux débat. Pourquoi je l'ai dit? Parce que pour réclamer, il faut que cette histoire-là soit inscrite dans les budgets. Voilà pourquoi moi, je suis de ceux qui soutiennent la proposition des syndicats. Pourquoi je l'ai dit? Même si ce sont des prévisions, comme je viens d'écouter notre auditeur qui a parlé, que ce sont des prévisions, mais pour mobiliser les recettes. Mais si cette histoire-là n'est pas inscrite, vous allez tout faire, vous allez réclamer. Vous rappelez qu'il n'y a pas longtemps, un des opposants qui a réclamé, qui a dit que pour un député national qui touche 21 000 $, cela ne se justifie pas. Il a quelle base? La base, c'est les budgets. Voilà pourquoi moi, je ne vois pas les retards. Quand pendant le Covid-19, nous avions pu constater tous les retards, et aujourd'hui on a récupéré les 25 jours, moi je ne vois pas un grand problème. Moi je suis de ceux qui soutiennent, parce que les gens parlent qu'on commence. Il faut voir les conditions de nos enseignants partout à travers le pays. Si à Kinshasa là on paye, mais ici chez nous, quand je vois mon petit frère qui est enseignant, ce qui le touche, en tout cas, je suis de ceux qui soutiennent que les 25 jours ne peuvent jamais cautionner la rentrée scolaire. Pour que la rentrée soit effective, donnons le temps. Le 15 septembre, on va effectivement ouvrir la session budgétaire. Qu'on puisse étudier, voir dans la rubrique enseignant, qu'est-ce qu'un enseignant du Congo doit toucher. Vous savez ailleurs, je suis en train de lire une histoire. Les gens qui ont eu à soutenir l'éducation dans leur pays, c'est la formation d'un capital humain. Voilà pourquoi les gens là, aujourd'hui à travers le capital humain, ils ont boosté même leur économie. Mais chez nous, si vous dites que nous on doit commencer, vous allez voir qu'on va appeler les gens à Maluku, on va appeler les gens à Kasangulu. Tout ça, si ce n'est pas inscrit dans le budget, ça sera un faux débat. Voilà le moment des enseignants, voilà le moment des médecins, voilà le moment où tout le monde doit réclamer, voir ce qu'on doit inscrire dans le budget. Même si la mobilisation va poser des problèmes, là, ça sera autre chose. Moi, je soutiens réellement ce qui se passe là. Je soutiens les syndicats que la rentrée scolaire ne peut jamais vraiment être rapide et pressionnée parce que on doit entrer. Non, non. Les enseignants doivent toucher leur argent. Voilà leur aussi droit. Dans ce qu'on va se faire là, messieurs les journalistes.
Merci beaucoup, Kalo. Vous estimez quand même que la question doit être bien établie au niveau du budget pour savoir qu'est-ce que les enseignants touchent, qu'est-ce que chacun peut toucher. Et vous avez évoqué d'ailleurs qu'il y a un opposant qui a dit que les députés nationaux touchent 21 000 dollars. Pourquoi n'est pas aussi au niveau du budget équilibré pour que les autres couches de la population se retrouvent? Je crois que c'est le débat aujourd'hui qui est dans tous les réseaux sociaux sur les émoluments de députés nationaux. Alors, il y a notre ami Lidor qui est à Kananga et Gervais à Kalemi. Vous gardez la ligne, hein, le temps que notre invité puisse réagir. Monsieur Paulin Odiane, je rappelle que vous êtes député national élu d'ici dans les Hautes-Uélé. Vous avez été coupé tout à l'heure, vous avez perdu peut-être les fils de quelques compatriotes, mais tous se sont revenus sur la question de des mobilisations de recettes, les trains de vie des institutions, l'équilibre en termes de justice salariale pour les uns et les autres. Il y en a deux qui sont revenus encore en estimant que les institutions, les gouvernements, les parlements, ils touchent beaucoup plus d'argent et tout ça, ça crée un déséquilibre au niveau de l'exécution de budget chaque fois qu'ils sont votés. Quelle est votre réaction par rapport à tous ces points de vue des compatriotes?
Merci beaucoup, très cher frère. Je tiens d'abord à préciser que ceux qui soutiennent que le budget, qui soutiennent que la rentrée scolaire doit être conditionnée au vote du budget, nos compatriotes, je crois qu'ils n'ont pas tellement raison du fait que le budget entre en exécution pratiquement l'année prochaine et non pas cette année. Si on vote le budget, d'abord on commence le 15, la rentrée c'est le 5. Il y a d'abord une différence de 10 jours entre la rentrée scolaire et la rentrée parlementaire. Et les jours où on va rentrer, ce n'est pas ces jours-là qu'on va déposer le budget, qu'on va l'examiner. C'est pratiquement difficile. Et on ne commence pas par examiner le budget, on commence par la rédition des comptes. Tout ça, ça demande du temps. Et si on doit conditionner la rentrée au vote du budget, je crois que l'année risque d'être une année blanche. Le plus important, c'est de commencer et puis les démarches pour que la condition de l'enseignant soit améliorée dans les budgets que nous allons examiner au courant du mois de septembre ou d'octobre. Comme elle a si bien dit un auditeur, le budget ce n'est qu'une prévision et qui autorise évidemment le gouvernement à récolter les recettes et puis à organiser les dépenses au cours d'une année. L'année en question, ça sera l'année prochaine. Donc, il fallait être patient sur ce point. Et à ce qui concerne la justice salariale, il appartient au gouvernement de définir la politique salariale d'un État. Ce n'est pas... on ne peut pas continuer à se plaindre. Il faut que ceux qui sont au gouvernement puissent s'atteler sur ce point-là. Et puis, comme je l'ai dit dès le départ ici, le gouvernement, il faut que les gens qui sont au gouvernement sachent qu'ils sont au gouvernement pour servir la République. Ils ne sont pas là pour se plaindre. Donc on ne peut pas continuer à se plaindre lorsqu'on est au gouvernement. Il faut mettre du sérieux dans la gestion du pays et puis trouver la solution aux problèmes qui gangrènent la société. Et je suis d'accord que je suis d'accord avec la population qui dit que non, voilà, il n'y a pas une justice salariale dans notre pays. Et je suis d'accord. Et il n'y en a pas parce que le gouvernement n'a pas défini ça. Il faut un cadre bien défini et il faut fixer le taux de barème, il faut fixer les écarts entre telle autorité et l'autre, et comment donc on doit toucher, qu'est-ce qu'on doit toucher, comment les institutions doivent fonctionner. Donc tout ça, il faut que le gouvernement soit en mesure de le faire. Donc si le gouvernement ne fait pas et si ce gouvernement commence à pleurnicher jour et nuit, donc nous disons tout simplement que la place de ce gouvernement n'est pas là. Il faut changer l'équipe et trouver des hommes capables pour résoudre le problème de la société. Et dans notre pays, on ne sait pas si... d'ailleurs, ça fait toute une semaine depuis que je suis à la base, il y a un groupe de fonctionnaires qui vient vers moi chaque jour parce que ces gens-là ne sont plus sur les listings. On les a écartés, mais les explications qu'on nous donne, on ne maîtrise pas ces explications, et tous ces gens se plaignent en disant que non, voilà, il faut trouver la solution pour que leurs enfants soient inscrits à l'école. Donc il n'y a pas, je ne sais pas si le gouvernement vraiment dans ses attributions contrôle très bien ce qui se passe à l'intérieur ou pas, parce que même les autorités de l'administration qui sont à l'intérieur font du n'importe quoi, et je vis même des lettres là où on demande à la banque de bloquer les salaires des fonctionnaires pour une raison non maîtrisée, et tous ces aspects, quand vous cherchez même à atteindre les autorités acquises, c'est difficile de les joindre parce que tout le temps les appels ne passent pas, parfois ça passe, on ne décroche pas, donc il y a un problème sérieux dans notre société. Il faut que dans un pays organisé, les systèmes soient vraiment bien définis. Pour le paiement des gens, il faut que tout soit informatisé. Et si on doit si on doit connaître la situation qui se passe à l'intérieur, il faut qu'on soit en mesure de la connaître, en éclairer les différents gouvernements provinciaux. Il faut que ces gouvernements provinciaux soient en mesure également de suivre tout ce qui se passe dans leurs activités pour qu'il n'y ait pas de cassure entre la population et le gouvernement. Donc nous disons, j'ai entendu parler également des traitements des élus. Sur ce point, il y a de quoi à se demander. Et tout ça, ça rentre également dans ce que nous disons, l'irresponsabilité même du gouvernement qui n'arrive pas à satisfaire le peuple. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis à la base. Tout ce que le gouvernement devrait faire, et c'est à nous maintenant de le faire. On nous demande de le faire. Et tout ça, ça met en difficulté les élus. Donc, les gouvernements qui n'arrivent pas à construire des centres de santé, qui n'arrivent pas à construire des routes, qui n'arrivent pas à construire des écoles, des ponts, ainsi de suite, et on demande aux élus de le faire. Et tout ça, mais si l'élu, on lui donne, par exemple, $1,000 par mois, comment il va le faire? Comment il va résoudre ses problèmes? Mais donc y a un problème sérieux. Il faut que chacun joue son rôle. Le gouvernement s'occupe de ses attributions. Il faut que les députés s'occupent de leurs attributions. Et il faut que les agents de l'administration, que chacun s'occupe de ses attributions pour résoudre le problème et pour mobiliser les recettes. Les recettes doivent être mobilisées pour que ces recettes entrent dans la caisse de l'État et non pas créer des sous-comptes qui ne sont pas contrôlés au niveau national par les services, par le ministère des budgets et le ministère des finances. Parce qu'il y a des comptes pareils. Il y a des entreprises qui payent, mais leur argent n'arrive pas dans la caisse de l'État. Il y a des sociétés qui ne payent pas leurs droits, donc qui sont gérées de manière opaque. Donc tout ça, ça nécessite vraiment ce que nous appelons un gouvernement responsable, capable de travailler pour l'intérêt général.
Voilà, merci. Alors, on va écouter Alidor qui est à Kananga et Gervais qui est à Kalemi. On commence d'abord avec vous, Alidor. Bonjour.
Bonjour, monsieur. Bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute, Alidor.
Oui, monsieur Pierrot, nous disons que les différents syndicalistes doivent d'abord créer un cadre permanent de concertation avec le gouvernement congolais afin d'engager des échanges sur des questions vitales qui concernent les enseignants et leurs conditions socio-professionnelles. Ce n'est pas aussi bien et surtout responsable de se réveiller à la veille de chaque rentrée scolaire pour perturber ainsi les calendriers scolaires en posant des préalables qui ne peuvent pas être résolus dans un temps record. Parce que chaque fois qu'on assiste à cela, ça impacte négativement sur la formation de nos enfants et justifie en quelque sorte la baisse du niveau de l'enseignement dans notre pays. C'est comme ça que les responsabilités sont partagées du côté gouvernement. On doit aussi privilégier d'autres secteurs de la vie. Parmi ces secteurs, le secteur de l'enseignement, en y accordant aussi un budget conséquent en faisant de sorte que les richesses du pays puissent profiter à tout le monde. Donc la vie au Congo n'appartient pas seulement aux politiciens, mais ça appartient à l'ensemble de, du peuple congolais et surtout de certains agents de l'État. Alors pour éviter une rentrée scolaire perturbée, comme nous l'avons toujours constaté toutes les années passées, cette fois-ci nous voulons que les syndicalistes puissent prendre conscience sur un cadre de concertation, mais pas poser leurs problèmes là comme étant impréalable, parce que même si aujourd'hui nous sommes à 2 semaines de la rentrée parlementaire, ce n'est pas aujourd'hui ou demain que le budget sera voté, et si seulement on veut décaler la rentrée scolaire d'une semaine, donc ils n'auront pas la solution à leurs problèmes. Donc nous risquons d'aller de report en report, et cela est en train d'impacter négativement sur la formation des enfants, et tout le monde sera maintenant fossoyeur de l'éducation de nos enfants. Donc du côté gouvernement, on doit aussi penser que les enseignants ont droit à la vie, et ils ne méritent pas ce qu'ils ont aujourd'hui comme traitement, comme salaire. Et ils sont clochardisés, on ne doit pas se voiler la face pour les dire. C'est un métier noble, on doit aussi consacrer un budget consistant pour que nous puissions avoir une formation de qualité et de par le monde que nous soyons considérés. Parce que même nous, au niveau du pays, nous critiquons notre niveau d'enseignement qui est au rabais. Mais comment relever cela sans fonds, sans moyens? Donc avec les moyens conséquents, surtout, nous aurons un enseignement de qualité et la RDC reprendra ses lettres de noblesse d'autrefois.
Merci beaucoup, Alidor. Vous estimez qu'il revient au gouvernement dans les budgets de pouvoir revoir, s'il faudrait dire ainsi, la dotation qui doit revenir à l'enseignement, tout en permettant que chacun puisse travailler pour éviter que, par exemple, l'année puisse être perturbée. Vous avez rejoint notre invité et d'autres compatriotes qui ont estimé que le travail du budget, c'est un travail énorme qui prend beaucoup de temps. On ne peut pas les conditionner. On ne peut pas conditionner plutôt la rentrée en termes de l'examen du budget. Maître Gervais, vous êtes à Calémi. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à l'invité, mais bonjour à tous les millions de la radio Mocap.
On vous écoute.
En train de suivre en ce moment.
Oui, on vous écoute, maître Gervais.
Oui, quant à la question de décaler la rentrée scolaire au motif que nos parlementaires puissent voter le budget, c'est vraiment très faux. C'est un motif non fondé aussi, ça fait partie des manœuvres purement dilatoires. Parce que la rentrée parlementaire elle-même interviendra le 15 septembre de cette année, chose qui pourrait bloquer même la situation et aussi perturber la situation éducationnelle de nos enfants. De deux, nous avons l'accord de Mbouri. Nous avions eu les états généraux qui s'étaient passés au niveau de la Congo, juste aujourd'hui. Et nous vous disons, M. Pierrot, gouverner, c'est prévoir, planifier, diriger, organiser. Maintenant, est-ce que dans le budget passé, 2021-2022, le parlementaire n'avait pas prévu ça? Et aussi, il faut qu'il revienne toujours à la prise de conscience. Nous avons la plupart de nos enseignants qui sont à l'intérieur, qui nous promettent, avant leur accession au pouvoir, que nous, quand nous serons députés nationaux, nous serons des merveilles, nous améliorerons les conditions sociales de nos anciens collègues, parce que la plupart d'entre eux furent enseignants non seulement avec leur primaire, et aussi au niveau supérieur et universitaire. Donc, moi, je ne trouve pas opportun le renvoi de la rentrée scolaire, et je ne vois aucun changement et aucune amélioration. Et je me ravis même au propos de l'opposant Martin Fayoul qui a dit que non, c'est vraiment adhérent et marrant. Dans un pays où un député national vous touche 20 000 à 21 000 dollars, pendant qu'un enseignant vous touche 100 dollars, peut-être 150, c'est vraiment grave, c'est une façon d'abandonner l'enseignant congolais à son triste sort. Voilà même les conditions dans lesquelles les enseignants travaillent. Moi-même qui vous parle, je suis enseignant, j'ai fait 4 ans dans l'enseignement, au début j'ai commencé par être non payé, jusqu'à ce moment-là j'ai progressé mes études, je suis devenu aussi avocat aujourd'hui. Et nous connaissons bien le passé dans l'enseignement. C'est vraiment hypothétique et chaotique. Donc, les parlementaires veulent juste amadouer les enseignants pour qu'ils bénéficient de l'argent. Derrière, je sais qu'il y aura un grand-mère comme toutes les autres, où chacun aura une prime consistante et colossale. Donc,
alors, j'y vais tout en s'inquiétant aussi, j'y vais tout en s'inquiétant pour la qualité de la ligne téléphonique qui est entre l'Ocalémie hein, et ici au studio. Vous avez quand même dit qu'il faudra aujourd'hui qu'on se penche sérieusement dans au niveau du budget pour l'affectation des ressources liées à l'enseignement. Vous êtes revenu sur cette polémique qui enfle les réseaux sociaux aujourd'hui avec l'annonce de l'opposant Martin Fayulu qui a dit c'est pas normal que les enseignants soient mal payés et qu'un député national soit payé 21 000 dollars. Aujourd'hui, c'est le grand débat sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi repris la même chose. Mais votre souci, c'est qu'on arrive à avoir un équilibre en termes de traitement, en termes de justice distributive pour l'ensemble de la population et que cela doit apparaître clairement dans le budget de l'État. Merci beaucoup, Gervais. Éminent, vous êtes à Bukavu. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à l'invité. Bonjour à toute l'équipe qui vous accompagne et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi qui nous suivent en ce net moment.
Alors, pour vous, quels sont les préalables pour avoir un budget qui réponde aux vrais problèmes de la population?
Les efforts d'abord de l'actuel gouvernement sont salués parce que nous sommes en train de voir au moins une amélioration sur les recettes nationales et sur les finances publiques. Nous devons souligner à cette occasion que nos autorités ne peuvent pas seulement chercher l'argent pour elles-mêmes, mais il faut aussi que cet argent soit au bénéfice de la population congolaise qui sont les premiers, qui est le premier contributeur ou contributrice maintenant. Pourquoi nous pouvons d'abord dire qu'il y a un peu d'amélioration, mais il y a la baisse des pouvoirs d'achat sur le marché. Le budget est voté, nous sommes en train de voir qu'il y a de l'argent qui, bon, il y a des milliards de dollars qui s'ajoutent. À l'époque, il y avait 4 milliards de dollars et actuellement, nous sommes, je sais pas, à 8 milliards ainsi de suite. C'est une bonne chose. Mais de ma part, je peux dire que c'est une utopie parce que c'est peut-être des vantardismes. La vie ne reflète pas l'amélioration de recettes de l'État sur le plan pratique. Ici, les Congolais qui avaient au moins un budget de 4 milliards étaient bien nourris à l'époque que les Congolais où le budget est passé à 8 milliards de dollars. Nous devons d'abord avoir les soucis de la population parce que je crois que l'État, la population est le souverain primaire d'un État dit démocratique. Alors, si le budget serait voté sur base du slogan « Le peuple d'abord », on devait d'abord commencer par des classes moyennes, pas aux gens qui sont bien rémunérés comme le précédent auditeur l'a souligné, disant que il y a le député, c'est donc on peut dire que le principe des pauvres finiront toujours par être pauvres et les riches finiront toujours par devenir riches. On n'a pas besoin, on n'a pas seulement le souci de faire certaines choses. Mais si ce budget sera au moins basé sur le social, on devrait d'abord chercher à créer les emplois, chercher à redéfinir le nouveau mécanisme pour que les sociales de la population congolaise puissent au moins s'améliorer. Mais de toutes les façons, nous saluons d'abord les efforts fournis parce que détruire, c'est très facile. Nous savons très bien que il y a les gens qui avaient dit que le pays était détruit et c'était vrai. Mais reconstruire, c'est très difficile. On peut démolir une chose qu'on a construite pendant 3 ans, même Jésus-Christ de Nazareth l'avait dit. Je peux démolir ce synagogue qui était construit des années pendant 3 jours. Et ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une bonne chose. Mais que cela ne puisse pas être fait pour des faits propagandistes.
Mais que ce soit vraiment de vrai. Je pense que merci beaucoup, Éminent. Vous avez dit si on doit augmenter les budgets, si on doit mobiliser les recettes, cela doit aussi se refléter dans la redistribution de cet argent pour que chacun puisse se retrouver. C'est ça votre souci. Et il faut d'ailleurs plus affecter beaucoup de fonds pour la création d'emplois, et comme ça les gens pourront avoir des salaires décents. On va terminer avec vous, Jérémy, vous êtes à Lubumbashi. Peut-être en une minute, votre point de vue autour du budget qui répond aux besoins de société, et notre invité va conclure cet échange. Rapidement, Jérémy, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur. Bonjour également à l'invité. Moi, je trouve que nous sommes en train de nous en passer d'un élément très important parce que, vous savez, il faut d'abord connaître, maîtriser les recettes générateurs de notre recette qui doit, n'est-ce pas, aller en appui à notre budget. Je pense qu'il faut d'abord commencer par là, chercher à utiliser ces fonds-là qu'on peut canaliser pour que l'autorité budgétaire puisse fixer un budget conséquent qui doit répondre de manière équitable. Pour que chaque Congolais se retrouve, il y a certaines catégories qui sont presque qui sont marginalisées en l'espoir de l'économie, etc. Moi, je trouve qu'il est plus que temps. Et au départ, il y en a qui nous ont parlé de mobiliser autant pour réunir un budget de 90 des autres. Parler de tous les temps. Mais c'est le moment de pouvoir ne plus que chercher à satisfaire le peuple congolais, à remobiliser les recettes et réduire sensiblement les exonérations, parce qu'il y en a qui sont vraiment les plus avantagés, pour qui les exonérations ne leur disent absolument rien. Mmh. Et voilà pourquoi notre pays est en train de connaître un train de recul. Moi, je pense qu'il faut aussi réduire les trains des députés nationaux qui sont, n'est-ce pas, l'autorité budgétaire.
Alors, c'est revenu plusieurs fois. Beaucoup de gens ont toujours souhaité la réduction. Oui. Merci beaucoup, Jérémy. Beaucoup de gens ont toujours souhaité cette question de réduction des trains de vie des institutions. Alors merci aux uns et aux autres. Nous revenons à vous, Monsieur Paulin Odiane, député national élu du Siro dans les Hauts-Tuélé. Vous avez suivi les compatriotes. Si on peut, qu'est-ce qu'on peut retenir pour conclure cet échange?
Merci beaucoup. Je crois que nos compatriotes ont pleinement raison. Mais nous devons savoir ceci, parce que nous, quand nous venons au pouvoir, nous venons au nom du peuple. Et nous devons travailler pour que cette population se retrouve dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et si la population ne se retrouve pas, cela signifie que nous ne travaillons pas pour elle. Comme l'a souligné Jérémy, le budget, c'est côté deux rubriques. Il y a rubrique recettes et rubrique dépenses. Je tiens ici à souligner qu'à ce qui concerne les recettes, il faudra faire un travail énorme dans ce sens-là. Vous savez, une fois je suis allé à Kasumbalesa, moi-même j'étais sidéré de constater que les recettes sont en train d'être volatilisées. Tout simplement parce qu'il y a des mécanismes, il y a des gens qui déchargent leurs marchandises de l'autre côté et puis qui prennent des vélos pour donc traverser la frontière, et ça échappe énormément à la douane. Donc il y a beaucoup de recettes qui échappent à la douane, et ça s'est fait au vu de tout le monde. Les services de renseignement sont là, la police, l'armée, tous les agents de la douane, ils sont là. Tout le monde est là au regard de ça passivement. Que ce soit vers Kasumbalesa ou vers le Nord Kivu, c'est la même chose. Donc les recettes se volatilisent. Vous arrivez dans des provinces comme la province du Ouélé, où les Chinois sont partout, ils sont en train d'exploiter de l'or. Mais l'État ne gagne absolument rien. Donc tout ça, ce sont des recettes qui se volatilisent. Il faudra canaliser toutes les recettes vers la caisse de l'État pour que l'État soit à même de supporter les charges qui lui incombent. Créer des emplois, il faut que l'État soit à mesure de diminuer sensiblement la pression sur les entreprises, c'est-à-dire ici des tracasseries inutiles. Il faut que cela cesse. Au contraire, nous n'aurons pas d'investisseurs qui viennent chez nous. Donc, je crois que le problème le problème des salaires ou le problème des traitements des députés, les gens qui parlent de l'économie, moi, je ne suis même pas au courant de ce moment-là, peut-être pour les députés qui disent que nous allons voter. Nous allons voir si ça va réussir, si on va diminuer.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Paulin Odiane, député national élu du Siro dans la province du Haut-Uele. Merci à tous les auditeurs. Nous poursuivons le débat sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Cette émission, vous pouvez la réécouter sur www.radiocapi.net. Merci à Paul Badiayama qui était à la mise en onde. Quant à moi, Piro Elamedji, ça a été un réel plaisir de vous présenter ce magazine. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux Auditeurs. Au revoir.